Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera où vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, plus ou moins pertinente, mais toujours dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent depuis quelque part vers décembre 1895. Enfin bon, dans ces eaux-là. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre demi-heure à un cinéaste américain, James Ivory, qu'on aurait plutôt cru anglais, voire indien. Anglais d'abord parce qu'il s'illustra notamment dans des adaptations de romans anglais du classicisme, et puis indien puisque tout au long de son parcours, eh bien, il eut de grandes accointances avec l'Inde, sa civilisation, ses mœurs et évidemment son cinéma. James Ivory pourtant, donc, je l'ai indiqué, c'est un cinéaste américain puisqu'il est né en juin 1928 quelque part en Californie. Bon, sa vie d'enfance ne présente pas un intérêt tout particulier. Il grandit dans l'Oregon et il poursuit des études à la, je prends mon élan, University of Southern California School of Cinematic Arts, ce qui veut dire que quand même, il se destinait à une carrière cinématographique. Dans la vie, comme dans toutes les vies, il y a des rencontres décisives. Et James Ivory fera deux rencontres décisives, entre autres, d'une part avec Ismael Merchant, un scénariste à qui il collabore dès le début des années 60 et qui deviendra par la suite son mari. Et puis, par ailleurs, avec Russ Prowler, Joabala, alors là je suis vraiment désolé pour mon accent hindi, je vais essayer de le refaire quand même, Russ Prowler, Joabala, qui fut la scénariste d'une bonne vingtaine des films que James Ivory et Ismail Merchant firent ensemble, alors en se partageant les rôles, puisque a priori Ismail Merchant était plutôt le producteur et James Ivory était plutôt le réalisateur, avec Russ, appelons-la Russ, ce sera plus simple, comme scénariste. Et ma foi, eh bien, ces trois-là collaborèrent pendant très très longtemps, puisque Merchant et Ivory, qui avaient créé une société de production qui portait d'ailleurs leurs deux noms, eh bien, collaborèrent sur pas moins de 40 films, plus de 40 films même, c'est-à-dire une très très grande fidélité dans le temps. Alors, une fidélité amoureuse, bien sûr, hein, je vous l'ai dit, ils étaient en couple, mais aussi une complicité intellectuelle qui n'est pas toujours si facile que cela à obtenir quand on œuvre dans un milieu aussi compétitif que le monde du cinéma. On va commencer tout de suite, puisque j'ai déjà été assez bavard, par écouter un premier extrait musical d'un film de James Ivory. C'est un film tourné en 1965, qui n'est pas son premier film. Il avait déjà tourné quelques courts-métrages auparavant, un documentaire sur Delhi et un premier film en 1963. Sa première collaboration avec Russ, qui s'appelait The Householder. Shakespeare Walla, c'est le titre du film tourné en 1965. Eh bien, c'était à nouveau une collaboration avec Russ. Et puis la musique, et c'est quand même une particularité que je voulais signaler avant qu'on l'écoute, eh bien, elle est signée d'un autre grand cinéaste, peut-être le plus grand cinéaste indien de tous les temps. Il s'appelle Satyajit Ray. On a déjà consacré une émission il y a très très longtemps à Satyajit Ray, un cinéaste originaire du Rajasthan. Eh bien, c'est lui qui signait la musique de ce film qu'on écoute maintenant, Shakespeare Walla, dans 24 notes secondes.
Thank you.
un extrait de la bande originale de Shakespeare, voilà, un des premiers films de James Ivory, tourné en 1965, et une parfaite illustration de cette connivence avec l'Inde que le réalisateur aura cultivée pratiquement tout au long de sa carrière, puisque Shakespeare, voilà, c'est tout simplement l'histoire d'une troupe d'Anglais, bien sûr, qui joue les pièces de Shakespeare dans l'Inde post-coloniale, dans l'Inde donc de l'indépendance, et ma foi, il rencontre de moins en moins de succès, puisque le cinéma indien, justement, encore une ironie de la chose, pas celui de Satyajit Ray, mais plutôt le cinéma qu'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de Bollywood, eh bien le cinéma indien commence à remplacer le théâtre dans les divertissements préférés des Indiens, et donc eh bien, la troupe bat de l'aile, et évidemment il est facile de voir dans cette histoire une métaphore de l'Inde postcoloniale qui essaie de se débarrasser eh bien, de la tutelle anglaise qui a duré quand même un sacré bout de temps, et c'est pas toujours facile, et même aujourd'hui encore les relations entre l'Inde et l'Angleterre, la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth sont quand même tout à fait particulières. Par la suite, eh bien, James Ivory poursuit une carrière relativement soutenue, mais à vrai dire assez diverse, sinon disparate, puisqu'il tourne des documentaires et il tourne deux autres films qui ont plus ou moins pour sujet l'Inde, ou en tout cas pour terre d'accueil l'Inde, The Guru, tourné en 1969, et Bombay Talkie, tourné en 1970. Mais ensuite, eh bien, il faudra attendre 20 ans pour qu'on puisse à nouveau passer un extrait. Alors, il y a des raisons circonstancielles qui tiennent à la carrière de James Ivory, et puis il y a aussi des raisons pratiques qui tiennent à la disponibilité ou pas des bandes originales sur le site préféré de votre auguste programmateur. Ma foi, c'est pas toujours très facile de trouver, par exemple, la bande originale de The Wide Party, tournée en 1975, ou de Hullabaloo Over Georgie and Bonnie's Pictures, alors celui-là je ne l'ai pas vu j'avoue, tournée en 1978. Mais s'il fallait quand même trouver un tournant dans la carrière de James Ivory, ce serait en 1979 où il tourne une adaptation, d'un romancier lui aussi américain, même si on le pense anglais, qui s'appelle Henry James. Ça s'appelle Les Européens, The Europeans en anglais, et c'est une adaptation très classique d'un livre qui lui-même est très classique sur la société bourgeoise de Boston, je crois, quelque part à la fin du 19e siècle. Mais le film rencontre un très très gros succès et du coup, James Ivory étant que réalisateur et Ismail Marchand en tant que producteur vont sinon s'engouffrer dans cette veine, du moins la cultiver. Ma foi, quand on rencontre du succès, eh bien, on essaie de le reproduire, et dans les années qui suivirent, eh bien, on retrouvera quelques autres films qui vont s'inspirer de ce sujet. On va y revenir. On va juste écouter un extrait de la bande originale. Je l'avais oublié celui-là, j'avoue. Tourné en 1983 et qui, lui, est encore dans la veine indienne. Ça s'appelle Chaleur et poussière. Le scénario en est signé de Ruth, etc. Il est adapté d'un roman, d'ailleurs, de Ruth, etc. Dans les rôles principaux du film, on retrouve surtout des filles, Julie Christie et Greta Scassi. C'est une histoire d'amour entre justement une Anglaise et un Indien. La musique, elle est signée de Richard Robbins, qui va devenir le collaborateur privilégié de James Ivory, comme vous pourrez l'entendre après. On en écoute un extrait, Heat and Dust, Chaleur et poussière, dans 24 notes secondes. Si la bande originale du film est bien signée de Richard Robbins, je ne vous garantis pas, plutôt le contraire d'ailleurs, que cet extrait soit écrit par Richard Robbins. C'est vraiment de la musique indienne tout à fait typique. Chaleur et poussière, un film de James Ivory, tourné en 1983, donc qui était encore dans cette veine d'exploration de l'Inde par James Ivory, notre héros du jour. Mais cette fois, l'Inde coloniale, celle des années 20, avec une relation évidemment scandaleuse entre une Anglaise et un Indien. En 1984, James Ivory tourne Les Bostoniennes, qui est à nouveau une adaptation d'un roman d'Henry James, comme les Européens, 5 ans plus tôt. Et en 1985, il aura deux gros succès dans sa carrière. Ce sera le premier, on écoutera un extrait de la bande originale du dernier plus tard. Ça s'appelle Chambre avec vue, c'est l'adaptation d'un roman de E.M. Foster. Alors lui, c'est vraiment un Anglais typique, et l'histoire aussi est plus anglicisme que Downton Abbey, c'est vous dire. On retrouve d'ailleurs cette chère Maggie Smith qu'on verra bien des années plus tard dans Downton Abbey. On retrouve aussi Helena Bonham Carter, toute jeune, Denham Elliott, Daniel Day-Lewis, Rupert Graves, c'est-à-dire des acteurs qui, en 1986, ne sont pas très connus, mais vont faire la carrière que l'on connaît. Le film se passe à Florence avec des Anglais coincés, forcément, c'est des Anglais, qui découvrent les charmes d'une des plus belles villes du monde, dans la plus grande et la plus belle civilisation du monde, l'Italie, bien sûr. Et ma foi, tout ça est charmant, avec une magnifique photographie signée de Tony Pierce Roberts. Là encore, le scénario est écrit par Russe, d'après donc Edward Morgan Foster. La musique, elle est de Richard Robbins. On va arrêter avec mon accent anglais. On va écouter un extrait de la bande originale. Ce sera mieux. Chambre avec vue dans 24 notes secondes. Un charmant extrait de la bande originale de Chambre avec vue, A Room with a View. En fait, le roman s'appelle Avec vue sur l'Arno, parce qu'évidemment, quand vous allez à Florence, si vous avez les moyens de vous offrir un hôtel à Florence, pas donné à tout le monde désormais, eh bien, il vaut mieux l'avoir avec vue sur l'Arno, qui est le fleuve sur lequel, au bord duquel se trouve Florence, avec le Ponte Vecchio, tout ça, tout ça. Bref, un film tout à fait réussi, qui rencontra d'ailleurs un très, très grand succès, qui, comme je l'ai susurré avant d'en écouter un extrait de la bande originale, permit à quelques acteurs, actrices, notamment à Helena Bonham Carter ou à Daniel Day-Lewis, eh bien, de commencer la carrière dont on sait qu'elle fut brillante. E.M. Forster, c'est de lui qu'il s'agit comme auteur du roman original. Il avait été aussi adapté par David Lean en 1984 avec La Route des Indes, puisque E.M. Forster, lui aussi, comme James Ivory, il avait connu sa période indienne. Et ensuite, eh bien, leur chemin à E.M. Forster et à James Ivory se croiseront à plusieurs reprises, succès aidant, puisque en 1987, on verra Maurice, et en 1992, on verra Howard's End, Retour à Howard's End, qui sont à nouveau des films signés de James Ivory et à nouveau des adaptations de E.M. Forster. À vrai dire, ce seront ces films-là qui assureront à James Ivory le succès, puisque quelques autres ont plus ou moins disparu des mémoires, comme Surviving Picasso en 1996, dans lequel on retrouvait Anthony Hopkins dans le rôle de Picasso, mais Anthony Hopkins, il a à peu près tout joué. Ensuite, on verra des films un peu, je dirais, passés relativement inaperçus, comme La fille d'un soldat ne doit pas pleurer, tourné en 1998. Et en priori, James Ivory, qui est toujours parmi nous, mais qui a quand même plus de 90 ans maintenant, aura connu son dernier grand succès en signant le scénario, mais non la réalisation, en 2017 de Call Me By Your Name, un film de Luca Guadagnino, qui lui en signera la réalisation et qui rencontra un très très gros succès et dont James Ivory avait été le co-scénariste à 90 ans. Ma foi, c'était pas mal venu. Et on va se quitter avec un extrait d'une bande originale d'un film qui lui est le deuxième grand film, l'un des plus gros succès de James Ivory. On y voyait encore Anthony Hopkins avec à ses côtés la délicieuse Emma Thompson. Le film, il s'appelle en anglais Remains of the Day, en français Les Vestiges du Jour. C'est encore une adaptation d'un roman, cette fois de Kazuo Ishiguro, qui, sauf erreur de ma part, obtiendra plus tard le prix Nobel. Là encore, c'est Ruth etc. qui en signera le scénario. Aux côtés d'Anthony Hopkins et de Emma Thompson, il y a quelques pointures, comme James Fox et le regretté Christopher Reeves, alias Superman. L'histoire se passe quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis c'est un flashback, il y a une partie de l'histoire qui se passe dans les années 60. Anthony Hopkins est le maître d'hôtel dévoué corps et âme à son maître, qui lui-même, à vrai dire, au début des années 40, eh bien, fricote avec les nazis. À l'époque, certains, en tout cas dans l'aristocratie anglaise, hésitaient encore entre la démocratie et le nazisme. Ma foi, on le voit dans le film d'ailleurs, ça ne lui porte pas chance. En tout cas, c'est l'occasion pour Anthony Hopkins d'un rôle absolument exceptionnel, mais il en a eu d'autres, et d'une histoire d'amour avortée avec Emma Thompson. Et puis la musique, elle est à nouveau signée de Richard Robbins, qui nous donne l'occasion d'en écouter un large extrait, Les Vestiges du Jour, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.